sangwe rane sisan Tapa panyane la na fungi la dina King krisa be sangwe rane sisan Tapa panyane la na fungi la dina
Sangi Verona, Sangi Verona, Sangi Verona
E le sangue le dos
Sangi Verona, Sangi Verona Sangi Verona
E le sangue le dos Si vuoi cocciare la nafondi la dira Pota curva e che facisco la dira Si vuoi cocciare la nafondi la dira Culpa e che fazisco la dire
Sangi Verona, Sangi Verona, Sangi Verona
E le sangue le dos
Sangi Verona, Sangi Verona, Sangi Verona
E le sangue le dos
Alors sur cette musique de Cesare Evora, eh bien ce morceau donc qui a pour titre Sangue di Verona, c'était fait enregistré en 1997. L'entretien, je vais vous dire l'entretien avec Anna Sofia Fonseca s'est déroulé en compagnie d'Iris Robin. Merci à Elisabeth Perello Santandreu pour sa traduction. Les musiques de donc des différents albums de Cesaria Evora, il y a eu Mar Azul de 1991, Soda de 1992, Petit Pays de 1995, Tiempo y Silencio de 2001. Et vous signalez bien sûr que Conan de Bertrand Mondico et Cesaria Evora, la diva aux pieds nus d'Anna Sofia Fonseca seront en salle mercredi prochain, le 29 décembre et c'est vraiment, les deux films sont vraiment à voir. Samedi prochain, samedi 2 décembre, nous avons aussi pas mal de cinéma, mais nous avons également un bouquin. Alors, ça sera, nous parlerons, les filles vont bien, de Itsaso Arana, qui sort donc mercredi prochain, le 29 novembre. Mais là, nous n'avions pas le temps d'en parler. En plus, nous parlerons également d'un livre, Nosferatu, Mémoire d'une légende des ténèbres, d'Alain Pozzoli. C'est publié aux éditions Terre de Brume et c'est un entretien avec Alain Pozzoli. Le bâtiment 5 de Lajli, qui sort le 6 décembre. L'enfant du paradis de Salim Keshouch, le 6 décembre également. Blue Summer de Zheng Xian. The Soil Doves of Tijuana de Jean-Charles Hu, c'est un documentaire. Et enfin, la trilogie d'Apu de Satyajit Ray, pardon, excusez-moi d'avoir écorché son nom. Et donc, c'est la trilogie. Il y a donc La Complainte du Sentier, L'Invaincu et le monde d'Apu, donc nous parlerons de tout ça. Et je voulais également vous signaler une chose importante. C'est dans le numéro de novembre de CQFD, le numéro 224, il y a en page 3 un entretien. Sébastien Fontenelle, que l'on connaît bien ici à Radio Libertaire, et c'est sur son dernier bouquin qui a pour titre « Macron et l'extrême droite ». Donc je vais vous lire un passage, donc c'est page 3 dans CQF2, et c'est un entretien qui a été recueilli par Jean-Baptiste Legarce. Donc Macron, dans beaucoup de domaines, va beaucoup plus loin que ses devanciers, avec des signes très directs et très concrets, en direction de l'extrême droite, lorsqu'il banalise le recours à la brutalité policière ou encore lorsqu'il attente jour après jour aux libertés publiques. Ce sont ces traits, à mon avis, assez nouveaux par leur ampleur et leur régularité qui m'intéressent. Mais sur le sujet de l'immigration, ce que dit et fait Macron n'est jamais vraiment pire, au fond, que ce qui s'est dit est fait depuis tant d'années. Cela s'inscrit dans le droit fil d'une déjà longue tradition de dégueulasserie oratoire et législative toujours recommencée. Paradoxalement, ce n'est pas là qu'il apparaît le plus nettement enfourier du fascisme. Donc le titre de cet entretien qui a été donc transcrit par Jean-Baptiste Legard, c'est « Macron, fourrier du fascisme ?» Point d'interrogation. Et donc c'est un essai de Sébastien Fontenelle qui, je le rappelle, bon, non seulement c'est quelqu'un qui vient dans Radio Libertaire, mais c'est également une personne qui a travaillé en tant que journaliste à Blast et à Politis. Ceci dit, je vois que Nicolas rentre dans le studio, donc très très bonne semaine, il me reste à vous souhaiter donc une très très bonne semaine, et bien sûr, comme d'habitude, il y a la manif déjà, mais la manif, je le rappelle, contre les violences de genre, sociales et d'État, qui sont parties de partir de 14h de Nation et qui vont vers République, donc... Je vous souhaite une très bonne semaine et bien sûr, comme d'habitude, eh bien, tenez bon.
Radio Libertaire 89,4 MHz, sous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Ça y est, il y a une trêve humanitaire. Humanitaire, ça vient du mot humain, ce qui signifie bien que le reste du temps, les comportements furent inhumains. Trêve humanitaire, ça veut dire le retour de l'humain, le retour du regard des hommes, du regard des enfants. On dit aux enfants, allez, ouvrez les yeux, c'est fini. Et puis il y en a qui ne rouvriront jamais les yeux. L'humanitaire, c'est dire, on va pouvoir échanger des otages, des prisonniers. Une vieille femme israélienne qui a vu ses enfants éventrés. Une vieille femme palestinienne qui a vu ses enfants sous les pierres. On va échanger les deux. L'être humain est vraiment con. Ça me rappelle... Ça me rappelle une fable qu'on m'a jamais racontée quand j'étais petit. La fable, c'est, voilà, tu prends une terre, tu mets dessus deux hommes. Au premier, tu donnes une pelle, au deuxième, tu donnes un fusil. Celui à qui tu as donné la pelle va gratter la terre, planter des graines, espérer que ça pousse. Celui à qui tu as donné le fusil, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va dire à l'autre, je te protège contre les loups, contre les envahisseurs, contre les méchants. Alors, les graines poussent, mais ne poussent pas en quantité suffisante. Alors, que fait celui à qui tu as donné une pelle? Il demande à celui à qui tu as donné un fusil, aide-moi à aller chercher de l'eau. Celui à qui il a donné un fusil dit, je t'aiderai à aller chercher de l'eau si tu me donnes la moitié de tes récoltes. Alors, celui qui avait juste la pelle donne la moitié de ses récoltes à celui qui avait le fusil, et va chercher lui-même l'eau, parce que celui qui a le fusil lui dit qu'il doit le protéger contre d'autres méchants. Celui qui a juste la pelle se dit « Mais on m'exploite !» Mais il sait bien qu'avec une pelle contre un fusil, il peut pas grand-chose. Et puis les récoltes diminuent encore. Alors celui qui a juste une pelle réduit ses rations. Celui qui a le fusil, comme il veut manger, il sollicite d'autres personnes qui ont juste une pelle. Et il leur dit « Je te protégerai contre les méchants si tu me donnes la moitié de ta récolte. » Au bout d'un moment, ils sont 10 comme ça, à travailler avec leur pelle dans une terre aride, et 1 avec un fusil. Et là vous vous doutez bien, 10 avec une pelle contre 1 avec un fusil. Peut-être bien que la solution peut être trouvée, non? Pour rééquilibrer les choses. Et vous savez, l'être humain, il est tellement con que les 10 avec leur pelle, eh ben, ils se sont battus entre eux sous le regard de celui qui avait un fusil. Dessous de scène, quelques petits... Je me souviens. Je me souviens d'avoir retrouvé des histoires que je connaissais comme des histoires de Clafougnette, du bassin minier, racontées par des amis en tant qu'histoire de Marius et Olive à Vélassant de Marseille. Je me souviens que dans le café de Maxime, il y avait encore sur les murs des photos, pour certaines dédicacées, du bourreau de Béthune, de l'Ange Blanc, du dragon de Bagnolet, d'Andrés de Giant, de Robert Duranton, plus quelques autres catcheurs inconnus, avec des masques brésiliens du meilleur effet. Je me souviens de Davout, Ney, Soult, Serrurier, MacDonald, Poniatowski, Murat, Lannes, Excelmans, Berthier et autres, maréchaux d'Empire qui participèrent aux conquêtes napoléoniennes et envoyèrent donc au casse-pipe des soldats, y compris les Marie-Louise, jeunes conscrits sans formation, envoyés combattre dans la Grande Armée. J'ai passé mon temps à côtoyer le nom des maréchaux quand je prenais le bus de Petite Ceinture ou le tramway. Je me souviens de ZU, je me souviens de MFC, je me souviens de OHSUE et retenez aussi DLVATBK, ça pourra toujours vous servir chez l'ophtalmologiste. Je me souviens de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de me rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de me décider d'après mes charges et les moyens de défense suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui convient à tout homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions. Ah, serment au tribunal. Je me souviens de Henri-Lucien Thébault, de Jules Talon, d'Auguste Sturm, d'Hippolyte Simonet, d'Eugène Touchard, quelques-uns des 94 000 noms du monument aux morts de la Première Guerre mondiale au long du cimetière du Père Lachaise. Je me souviens de JVC, BASF, TDK, Sony, Agfa Gevaert, Maxwell, le tout avec option chrome ou ferrichrome, plus quelques autres marques de cassettes vierges, dont certaines que j'achetais par 3, sur le boulevard Barbès, et qu'ils laissaient des traces d'oxyde sur les têtes de lecture tant elles étaient de piètre qualité. Je me souviens aussi que j'avais retenu, d'un de mes cours d'allemand, que BASF, ça voulait dire Badische Anilin und Soda Fabrik, chose que je n'avais jamais réussi à placer dans la conversation.
Poi, poi. poi poi, on part à Gaza bombarder les terroristes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats. Poi poi poi, le Hamas c'est des barbares, nous on tue avec des bombes, pas des roquettes, ça a rien à voir. Poi poi poi, on a visé l'hôpital, c'est par humanisme, pour que les blessés plus jamais mal. Poi poi poi, j'ai entendu du bruit, désolé si j'ai tiré, j'ai cru que c'était une rêve partie. Poi poi poi, on a coupé l'eau courante, on va vous doucher au napalm, au phosphore, à l'essence. Poi poi poi, vous êtes dans des tunnels, on va les gazer et sceller les portes à la truelle. Poi poi poi, nous on fait pas d'otages, à part 2 millions à ciel ouvert derrière du haut voltage. Poi poi poi, mais vous pouvez prendre la fuite, promis, vous reviendrez en même temps que les réfugiés de 48. Poi poi poi, on a détruit vos maisons, on en reconstruira des mieux quand s'y installeront nos colons. Poi poi poi, on était là il y a 2000 ans, t'as qu'à retourner en Espagne où vous étiez il y a 1000 ans. Poi poi poi, Dieu est dans notre camp, la preuve, j'ai jamais vu un rabbin qui était musulman. Poi poi poi, nous c'est pas pareil, on était terroristes, mais contre les Anglais, pas Israël. Poi poi poi, eux c'était des colons, ça n'a rien à voir, nous on est chez nous, on a raison. Poi poi poi, le Hamas c'est fini, jusqu'à ce que leurs enfants soient grands et de haine remplis. Poi poi poi, critiquer Netanyahou, c'est antisémite, c'est anti-France, c'est pas bien du tout. Poi poi poi, la paix maintenant et Free Palestine, c'est antisémite, djihadiste et islamo-fasciste. Poi poi poi, votez LFI, c'est antisémite, pas une opinion mais un délit. Poi poi poi, le ballon d'or à Benzema, c'est antisémite, faut le donner à Dolev Aziza. Poi poi poi, les chansons de Vaquette, c'est antisémite, hein. Poi poi poi, avoir été contre l'apartheid, c'est du racisme anti-blanc. Ah non merde, non là c'est pas pareil. Poi poi poi, on part à Gaza bombarder les terroristes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats. Poi poi poi, le Hamas c'est des barbares, nous on tue avec des bombes, pas des roquettes, ça a rien à voir.
Radio Libertaire 89,4 MHz, ça c'était Tristan Hiner de Vaquette. Ça me rappelle l'époque où, en ouverture de ce magazine, il y a un paquet d'années de ça, j'ouvrais sur War in the Gulf, The Song de Tristan Hiner de Vaquette, justement, évoquant le fait que George Bush était parti chercher les armes de destruction massive. Vous vous souvenez, on a passé du temps et puis on n'a jamais trouvé les armes de destruction massive, sauf celles qui avaient été balancées depuis les avions, depuis là-haut, pour partir à la recherche des armes de destruction massive. Radio Libertaire 89,4 MHz, aujourd'hui autour de la table. Ah, Ariel, je lui fais coucou de loin, ça va mieux?
Ça va mieux, j'ai retrouvé la voix. Bon. Le souffle, plus fièvre.
Eh bien vas-y, donc, fais le tour de table.
Je reviens avec Patrick Denis, comme la truite sous la pierre. Voilà, donc avec plusieurs petits poèmes, on verra combien on peut en lire. Au moins un, c'est sûr. Et ça?
Alors, ce sera les poèmes à dire choisis par Daniel Gélin et un poème de mon grand-père Jean-Marie.
Sophie ?
Bonjour à tous. Du coup, moi, j'ai amené un texte sur le thème de nos mères, le prochain thème que je délaierai la semaine prochaine.
Et Laurent et Saint invité.
Eh bien, nous recevons une nouvelle fois Olivier Herrera Marine avec l'accent. Il est secondé par Carole. Carole qui va lire en français les poèmes d'Olivier. Alors Olivier m'a dit la première émission, on n'a pas eu beaucoup le temps. Effectivement, il y a des poètes qui ont beaucoup à dire. Donc j'ai dit à Olivier, tu reviens pour une deuxième semaine pour dire tes poèmes. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bonjour Carole.
Bonjour.
Voilà, nous sommes ensemble et on a une bonne quarantaine de minutes. Et puis après, tous nos invités pourront s'exprimer très tranquillement. Alors là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. Mais pendant que nos invités se préparent, on va peut-être écouter un petit peu de musique, soit la clé USB, le choix d'Olivier, Herrera Marine, ou bien les CD qui sont là, Nicolas, comme tu veux.
Elle rêve sous les branches, verte sa peau sans romance, froid ses yeux sans espérance. Compère, je donnerai dure pour son drame en cran d'arrêt, pour son miroir, ma monture. Verde que te quiero verde, vers le vent, vers ta campagne, vers le bateau sur la mer, le cheval dans por su manta. Verde que te quiero, verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en te quiero verde, vers le vent, vers ta campagne, vers le bateau sur la mer, le cheval dans la montagne, le cheval dans la, le cheval dans la, le cheval dans la montagne, y el caballo en la, y el caballo en la, y el caballo en la montagne.
Eh bien, dis-moi, Laurent, tu nous fais des rappels de l'émission de la dernière fois ?
Oui, un rappel, parce que c'est tout à fait nécessaire, c'est Christina Rosmini. Je suis... Elle nous a rendu visite 10 petites minutes. Je suis allé voir son spectacle qui était d'une dimension exceptionnelle. Et j'y retourne le 21 décembre au studio de l'Ermitage à 20h30. C'est immanquable. D'abord, c'est une femme de scène hors du commun, avec une écriture de chansons et surtout une musicalité qui justement emprunte à, au continent de son origine, qui est donc qui est l'Espagne, qu'on peut presque appeler un continent. Et donc Christina Rosmini, que j'ai voulu bien sûr inscrire en introduction de notre séquence, puisque aujourd'hui nous restons en Espagne avec un poète qui s'appelle Olivia Herrera Marín. Vous l'avez déjà entendu il y a quelques semaines, il est de retour. Avant que Olivier nous lise quelques-uns de ses poèmes, je voudrais qu'il nous rappelle très brièvement, ça va être difficile, son parcours. Là, je lui demande un exploit olympique à Olivier. Et ça fait sourire Carole, d'ailleurs. Et pas seulement, même Ariel aussi. Quelques mots de ton parcours. En tout cas, le parcours qui t'a mené à la poésie, à cette expression intimiste.
Moi, je suis né dans l'Espagne franquiste, profonde. Mon père, il a été interrogé et tué le même jour en 3 heures. C'était le 22 d'avril del 48. Moi, j'avais 2 ans et 20 jours. Ça m'a marqué parce qu'en plus, on a resté dans le village. J'ai réussi à me gagner la confiance de les fils del système. Et les fils del système, après, j'ai formé beaucoup plus tard les jeunesses communistes de mon village. Pourquoi? Parce que ma mère, elle m'a enseigné à garder la mémoire et défendre le nom de mon père sans haine, sans demander vengeance. Et ça, grâce à ma mère, j'ai réussi. J'ai regardé les étoiles, je ne savais pas chanter et j'avais besoin de m'exprimer. Alors la poésie, ça a été ma thérapie. Dans une grande interview qu'on m'a fait à l'époque, l'année 84, j'ai dit que la poésie m'a sauvé de la folie. Je reviens à Paris l'année 1974, j'ai fait mes études de sociologie à Vincennes. Et après, je retourne en Espagne. Et un bon jour, ça fait 33 ans, Carole m'écoute réciter. Je ne connaissais pas Carole, pas du tout. Et quand j'ai fini de réciter dans un bistrot, mais avec des amis, comme ça, elle a eu enfin, la gentillesse de me s'adresser. Et à partir de là, on est devenu d'amis. Ça fait 33 ans qu'on se connaît. Okay? C'est une femme qui elle est pour quelque chose dans mon parcours. Elle m'a bien aidé quand je suis venu l'année 91 à Paris. Et moi, j'ai appris avant à travailler la terre qu'à lire et écrire. Mais j'ai dit, la poésie, ça a été ma salvation. Et voilà, je pense qu'avec ça, j'ai tout dit.
Oui, c'est le contrat est rempli. Voilà, on peut le dire. On a un parcours singulier avec justement ce rapport à cette poésie salvatrice, cette expression. Alors Olivier, nous allons t'écouter dans la langue de tes origines, bien sûr, et puis ensuite Carole nous lira la traduction que vous avez travaillée ensemble, m'a dit Carole, puisqu'on s'est un petit peu vu avant l'émission, on a eu le temps de faire connaissance et d'échanger. Donc c'est vraiment un travail de binôme, et c'est important de le souligner. Olivier, nous t'écoutons.
Je vais démarrer en honneur à les trois papillons de République Dominicaine, tués pour Trujillo, et en honneur au jour qu'on est à la femme, avec un poème que j'ai écrit l'année 71 et que j'ai récité la première fois dans le cinéma Bahia de Villarreal en présentant à Marie-Almar Bonnet. Je l'ai connu à Paris quand le Llach est passé à l'Olympia. Enfin, je commence avec ce poème. C'est en catalan. Après les autres, ils vont être tous en castellan. La dona treballa, viu, planta cara, pren la paraula. Ets l'ama del camp, de la fàbrica i del teler, del riu i de la mar. Ets l'ama del raïm i del blat, de la muntanya i de la vall, del fruit del teu treball, dona. Mai la meua, amiga, amant, companya, que sols tu ets l'ama del teu cos i de la teua ànima. Quan j'ai fini, tout le cinéma s'est mis en pied, tout le cinéma. Je vous parle de 52 ans en arrière, dans l'Espagne franquista.
Carole, nous t'écoutons.
La femme travaille, vit, fait face, prend la parole. Ils sont à toi, le terrain et l'usine et le métier à tisser, le fleuve et la mer. Ils sont à toi, le raisin et le blé, la montagne et la vallée, et les fruits de ton travail. Femme, jamais mienne, amie, amante, copine, tu es la seule propriétaire de ton corps et de ton âme.
Merci.
Semer l'amour et puis donner la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur votre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde
un paradis. Enfant de tout pays, dans les vos mains peuvent crisper l'amour et puis donner la vie. Enfant de tout pays et de toutes les couleurs, vous avez dans le cœur votre bonheur. N'ont qu'une adresse, le paradis. Enfant de tout pays, tendez vos mains, semez l'amour et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de toutes les couleurs, vous avez dans le cœur le bonheur. Et puis le jour où l'amour sur la terre deviendra roi, vous pourrez vous reposer. Lorsque la joie couvrira vos prières, vous aurez droit à votre éternité. Tous les rides de votre empire feront du monde un paradis. Enfant de tout pays, tendez vos mains, puis semez l'amour et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de toutes les couleurs, vous avez dans le cœur votre bonheur.
Eh bien voilà, nous sommes à l'antenne et puis nous avons la voix d'Olivier qui s'entretient avec Carole parce que tout ça, eh bien c'est à la fois préparé, mais il faut se dire des choses avant et pendant. Alors Olivier, tu as choisi cette chanson, Enrico Macias, Enfant du pays, c'est ton choix.
Merci.
Voilà. Merci. Eh bien, on va poursuivre avec un autre poème, Olivier Herrera Marin, en direct sur Radio Libertaire.
La poesía es en la tierra sedienta la semilla en el surco del arado y la lluvia en el mes de mayo. Es el poder del mar bravío y las estelas que riela la luna, paz y libertad, luz, amor y vida. Miguel de Cervantes. Una ventana abierta, un taburete, una mesa, un colchón de esparto, una cama de piedra y la luz, la de una vela, la del sol y la del alma, para escribir el Quijote, soñar y amar a su amada. Los amores libres y solidarios son los auténticos amores de los seres humanos. En la inmensa soledad del desierto, la luna cuelga esta noche su espejo, flota el eco de mi voz en el silencio. Si algo vale, es la piedra pequeña que cae en el estanque, revuelve el cieno y renueva el aire.
La poésie se trouve dans la terre assoiffée, la semence dans le sillon de la charrue et la pluie au mois de mai. C'est le pouvoir de la mer déchaînée et celui du reflet argenté de la lune sur la mer. Paix et liberté, lumière, amour et vie. Michel de Cervantes dans la prison de Medrano. Une fenêtre entrouverte, un tabouret, une table, un matelas spartiate, un lit de pierre. Et la lumière, celle d'une bougie, celle du soleil ou celle de l'âme, pour écrire Don Quichotte, rêver et chérir sa bien-aimée. Les amours libres et solidaires sont les amours authentiques des êtres humains. Dans l'immense solitude du désert, la lune laisse pendre cette nuit son miroir. L'écho de ma voix flotte dans le silence. Si quelque chose en vaut la peine, c'est la petite pierre qui chute dans l'étang en remuant la boue et en renouvelant l'air.
Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que
que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuántos sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando, más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si no dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo.
Les connaisseurs auront reconnu une voix qu'on entend moins souvent. C'est la voix de Ángel Parra qui chante un auteur que connaît et qu'apprécie Olivier Herrera Marín. Alors Olivier, quelques mots sur l'auteur de ce poème.
Gabriel Zelaya, il était ingénieur, mais il a laissé un peu sa carrière pour mettre sa voix et son temps au service du peuple. Et une phrase de lui, des vers de lui, ils ont fait, enfin, ça a été pour nous comme l'éclair. La poésie est une arme cargada de futur. La poésie, c'est une arme chargée de futur. ça, enfin, Paco Ibáñez y la chanté, et lui, et Gabriel Zelaya, avec Blasco de Otero, avec Blas de Otero, Pido la Paz y la Palabra, Emilio Celso Ferreiro, Viaggio País dos Enanos, Miguel Hernández, José Hierro, enfin, ils ont été les poètes de toute une génération qui nous a permis de lutter contre le fascisme.
Merci Olivier. Alors, encore un autre poème. Alors, peux-tu nous dire le titre des poèmes?
Oui.
Le titre, parce que je crois qu'on n'a pas entendu les titres des
poèmes. Non, parce que c'était des petits poèmes.
Mais un petit poème peut avoir un grand et beau titre, cher Olivier.
Excusez-moi.
Eh oui, quand même.
Excusez-moi.
Escucha. Alors, nous t'écoutons avec le titre.
Bien. Embrasse les étoiles. À Carole Vincent. Je l'ai écrit chez elle après des longues discussions, on dit, qu'on a eu. Okay? On parlait des droits des femmes à être ou pas être libre. On parlait de ça. No le temas al dolor, no le temas al amor, no le temas, mi niña, al sol y a la vida. Levanta tu vuelo y besa las estrellas. No le temas al dolor, no le temas al amor, no le temas a la vida. Aunque te claven mil dardos, mil y dos mil miradas, mil y diez mil puñaladas. Aunque te cubran de piedras, te culpabilicen y crucifiquen por los mercados y las esquinas. Aunque te coronen de espinas los miembros del clan, del macho, del gran orangután.
Carole.
Embrasse les étoiles. N'aie pas peur de la douleur, n'aie pas peur de l'amour, n'aie pas peur, ma belle, du soleil et de la vie. Ouvre tes ailes et embrasse les étoiles. N'aie pas peur de la douleur, n'aie pas peur de l'amour, n'aie pas peur de la vie. Même si on te transperce de mille flèches, de mille et dix mille regards, de mille et dix mille coups de poignard, même si on te couvre de pierres, même si on te culpabilise ou on te crucifie dans les marchés et au coin des rues, même si les membres du clan des machos, du grand orang-outan, te coiffent d'une couronne d'épines.
Merci.
Décidez d'être copains et partagez un beau matin leurs espoirs et leurs chagrins.
Si tous les gars du monde devenaient de bons copains
et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain.
Ne parlez pas de différence, ne dites pas qu'il est trop blond ou qu'il est noir comme du charbon, ni même qu'il n'est pas né en France.
Aimez-les n'importe comment, même si leur gueule doit vous surprendre. L'amour c'est comme au régiment, il faut pas chercher à comprendre. Si tous les gars du monde décidaient d'être copains et partageaient un beau matin leurs espoirs et leurs chagrins.
Si tous les gars du monde devenaient de bons copains
et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain.
J'ai mes ennuis et vous les vôtres, mais moi je compte sur les gars. Les copains qu'on ne connaît pas peuvent nous consoler les autres.
Tous les espoirs sont permis, le bonheur c'est une habitude. Avec 200 millions d'amis, on ne craint pas la solitude.
Si tous les gars du monde décidaient d'être copains et partageaient un beau matin leurs espoirs et leurs chagrins.
Si tous les gars du monde devenaient de bons copains
Eh bien, ça nous renvoie à une période, on peut dire, quasi antédiluvienne, avec la voix très très jeune des compagnons de la chanson. C'est vrai que on les reconnaît, mais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils étaient vraiment, voilà, des post-adolescents. Pour cette chanson, vous l'avez reconnue, c'est Tous les gars du monde, choisi par Olivier Herrera Marie, notre invité, avec Carole Van Sant. Hein, j'ai redécouvert ton nom. Et on entend Olivier en train de déguster son café. Tout passe, qu'il avale de travers, tout passe aussi. C'est le direct sur Radio Libertaire. C'est la poésie décontractée. Voilà, c'est ce qu'on aime ici sur notre radio. Alors, nous avons donc les compagnons de la chanson. Il y a encore un troisième titre. Et puis, mes invités et tous les invités autour de la table découvriront d'autres titres qui sont sur des CD avec d'autres auteurs. Il y en a encore un, mais je fais un petit coucou à notre grand timonier Nicolas. On aura d'autres titres à passer sur les disques et je vais lui dire tout à l'heure un petit peu en direct. Alors un autre poème, cher Olivier, avec le titre que tu vas nous dire dans ton accent. Alors moi quand je vous écoute là, j'imagine un disque avec la version d'origine, la version traduite. Je crois que ça sonnerait très bien parce que, bon, c'est ce que j'ai dit aux amis qui m'ont fait connaître Olivier Herrera Marine. Je leur ai dit, à Maximiliano et puis à Bolivar, voilà un poète qui sait dire ses textes. Ça n'est pas très fréquent, j'en sais un tout petit peu quelque chose, et c'est le plaisir du direct. Olivier, c'est à toi.
Bien, le poème que je vais lire, c'est le poème qui m'a fait démarrer en France sans savoir comment ni pourquoi. I un bon jour, l'année 95, l'éditorial Atier demande a Jules Verne pour apprendre aux élèves français qui était Jules Verne. C'est pas évident. Cet poème a été repris par la suite deux fois pour le ministère d'éducation français pour passer le CAPES. Et les deux fois, on l'a mis en relation comparative avec Pablo Neruda. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je vais lire le poème. Ah, je vais dire quelque chose. Ça provoqué qu'un jour j'ai reçu un courrier de Sophie de la Cruz de Montréal, un professeur qui voulait savoir qui j'étais parce qu'il ne me connaissait pas. Et elle avait donné des cours d'espagnol à Singapour. Et après, au marché de la poésie, qu'un grand poétise français, Ima Sango, quand je l'ai acheté un bouquin et je m'ai mis à parler avec elle, quand elle a entendu mon nom, dit « Vous êtes Olivier ?»« Oui, pourquoi ?»« Vous êtes Olivier de Jules Verne ?»« Oui, pourquoi ? Asseyez-vous. » Et elle pendant 25 ans, elle a gardé toujours cet poème comme le poème pour apprendre l'espagnol en Nouvelle-Calédonie. Elle est maintenant en Nouvelle-Calédonie, elle va revenir en janvier. Elle est rentrée dans l'Académie des poètes de Toulouse. Voilà un poème qui m'a marqué et qui a marqué beaucoup de gens. A Jules Verne. Los poetas con sus sueños crean montañas de palabras, de locas esperanzas. Los poetas con sus sueños cruzan las selvas y desiertos, cruzan los mares. Los poetas con sus sueños navegan sin velas y sin estrellas en las aguas profundas. Los poetas con sus sueños llenan el vacío, con su ilusión crean el contenido. Los poetas con sus sueños llegan a la luna y al centro de la tierra. Los poetas con sus sueños, los técnicos sin sueños, matan las rosas.
À Jules Verne. Les poètes, avec leurs rêves,
crée des montagnes de mots et de folles espérances. Les poètes, avec leurs rêves, traversent les jungles et les déserts, traversent les mers. Les poètes, avec leurs rêves, naviguent sans voile et sans étoile en eau profonde. Les poètes, avec leurs rêves, comblent le vide avec leurs illusions et créent ainsi du contenu. Les poètes, avec leurs rêves, atteignent la lune et le centre de la terre. Les poètes, avec leurs rêves, les technocrates, sans rêve, tuent les roses.
Fueron a arar temprano, ay, ay, se fueron a arar temprano. La, la, ira, ra, ira, ra, re.
Radio Libertaire 89,4 MHz, de Soutsène, magazine de créatures radiophoniques. C'est Laurent, normalement, qui reprend l'antenne pour expliquer les choses. Mais le pire, c'est qu'il était là, en régie, avec moi, à choisir les titres à venir. Donc, Laurent, là, il est repassé côté studio.
Voilà, sur les deux territoires, voilà. Je suis un peu sur entre la frontière. Alors, avec voilà, il nous reste encore un bon quart d'heure encore pour dire ces poèmes. Et Olivier Herrera Marine avec Carole Van Sant qui lit les traductions qui ont été travaillées de concert. De concert, il faut le préciser, puisque avec Carole, avant l'émission, nous parlions de l'exercice singulier de la traduction, la manière de trouver les équivalences. C'est un véritable travail, c'est une aventure. Et nous avons donc eh bien, les poèmes d'Olivier Herrera Marine, qui a publié plusieurs recueils, mais qui ne sont pas encore bilingues. Alors peut-être qu'un jour ça pourra se faire, je l'espère, parce que je n'ai pas saisi tout, bien sûr. Il est important, c'est vrai, en tout cas ici, d'avoir des recueils bilingues, parce que ça met beaucoup à la portée des lecteurs. Et puis aussi pour les étudiants en espagnol, c'est très intéressant d'avoir à gauche l'espagnol, à droite le français, ou l'allemand, ou l'anglais, ou l'italien. C'est une vision qui est beaucoup plus, qui rend les choses beaucoup plus possibles, et je pense que cela se fera un jour, je le souhaite à Olivier, qu'il puisse obtenir un éditeur. Et il y a bientôt le marché de la poésie en juin prochain, j'espère qu'on se retrouvera là-bas. Olivier, le prochain poème s'appelle comment ?
Andalousie. Cet poème aussi, ça a été le troisième poème publié dans le bouquin scolaire. Et Hachette, il me l'a demandé. Et moi, j'ai eu le besoin de lui dire merci, mais je ne peux pas vous donner le poème. Alors qu'un poète refuse Hachette de publier un poème, c'est jamais vu. Alors, ça m'était passé, parce que le poème, je l'avais déjà promis à Belen, à Édition Belen. On m'a posé la question, mais vous avez un contrat ? Non, j'ai aucun contrat, j'ai ma parole. Merci, vous êtes un... Ils ont bien remercié. Et Hachette m'a dit, de toute façon, on va vous publier. Et après, l'année suivante, Hachette m'a publié un autre poème. même que je lui ai donné ce qu'elle voulait. Andalusia. Es mi Andalucía al sur y al norte de España. Jaén, el de los olivares, Granada, la de la Alhambra. Málaga y Almería, Córdoba y Sevilla, Gata y la Alcazaba, la Mezquita y la Giralda. Tierra de sol, de mar y de sal. Dehesas de toros, vinos y fresas. Tierra de oro, claveles y rosas. Tierra de cobre, de azúcar y plata. Cádiz y Huelva, la bahía y el coto, el sur y la punta de mi Andalucía. Sierra Morena, Serranía de Ronda, Sierra de Cazorla y Sierra Nevada. Andalucía, tú eres poesía y pintura, tú eres pincel y pluma, tú eres la luz de España. Cet poème, le Ministère d'Éducation francés, il me l'a demandé pour le publier dans une disquette qui a été donnée à tous les hispanistes de toute la France, collège, pour apprendre aux élèves dans les cours à faire des poèmes de la région où ils étaient. L'Alsace, la Lorraine, tatati, tatata. C'est aussi un poème qui a fait un grand parcours. Et après, le groupe français d'éducation nouvelle, il a comparé avec un des plus grands poètes du monde. Je ne vais pas dire le nom pour ne pas être prétentieux. En disant, lui, c'est Dieu. Olivier, c'est notre copain qu'on a trouvé au bistrot et on reste avec Olivier. C'est ça. Et ça, c'est le groupe français d'éducation nouvelle.
Andalousie. C'est mon Andalousie, le sud et le nord de l'Espagne. Jaén, celle des oliviers. Grenade, celle de l'Alhambra. Malaga et Almérie. Cordoue et Séville. Le Finistère de Gata et l'Alcazaba. La mosquée et la tour de Giralda. Terre de soleil, de mer et de sel, pâturage de taureaux, vin et fraises, terre d'or, d'œillets et de roses, terre de cuivre, de sucre et d'argent. Cadix et Huelva, la baie et la réserve naturelle de Doñana, le sud et la pointe de mon Andalousie. Sierra Morena, Serrania de Ronda, Sierra de Cazorla, Sierra Nevada. Andalousie, tu es la poésie et la peinture. Tu es le pinceau et la plume. Tu es la lumière de l'Espagne.
C'est magnifique. Merci. Vraiment, là, d'ailleurs, voilà, tout le monde a envie d'applaudir. Et j'espère que ces poèmes seront dits bientôt en public. Ça fait un très beau duo. C'est la formule magique pour diffuser cette poésie que j'appellerais haute en couleur et haute en vécu et haute en sentiment. On va écouter une chanson ou un titre qui est peut-être sur la platine. On a quelque chose, je pense, qui est là. On écoute.
Solo fui un holgazán. Yo soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero morir. Pueden destrozar todo aquello que ven, porque ella en un soplo la vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanta una torre de este cielo hasta aquí. Me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa. La quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor. Hey.
Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de cette nuit. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi.
Eh bien, antenne déjà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu? Alors, c'est très inhabituel, là, il faut le désannoncer. C'est le choix d'Olivier Herrera Marin. Et c'est Shakira, Je l'aime à mourir, 2012, version, bien sûr, du tube total et immense de Francis Cabrel. Et c'est une belle surprise, ça sonne très très bien. Alors je vais un peu raconter certains petits secrets d'hors antenne. Pas tout ce que vient de nous dire Olivier, mais ce dont Sophie, qui est avec nous, discutait avec Carole, justement, sur la traduction, et surtout, Sophie faisait une remarque extrêmement intéressante sur la manière de dire un poème dans une langue et la manière de le dire dans la traduction. Ça m'a beaucoup intéressé. Alors, on pourrait reconstituer le dialogue. Alors, est-ce que Sophie peut reposer la question à Carole? Est-ce qu'elle se souvient de sa question? Est-ce que... Allons-y.
Il s'agissait de force qu'on peut entendre quand on entend un poème. Et c'est vrai que les deux façons de dire les poèmes depuis tout à l'heure sont très différentes. Mais moi, ce que je voulais souligner, c'est qu'on peut avoir une voix très douce et dégager autant de force qu'en le disant... en criant, et que je trouve ça très intéressant. Selon chaque identité, on peut interpréter quelque chose de très fort, différemment.
Oui, c'est vrai que moi, dans la traduction, je ne parle pas du tout espagnol couramment. Je parle du Olivier couramment. je comprends son intention, et j'ai cherché des mots qui pouvaient me faire vibrer de la même façon que lui quand il vibre, et en déclamant ses poèmes, parce qu'il a une force extraordinaire. C'est ça qui m'avait d'ailleurs interpellée quand on s'est rencontrés. Il était vraiment à l'autre bout du restaurant quand je l'ai entendu, et j'ai dit je peux pas ne pas aller dire merci à ce monsieur pour ce qu'il est en train de dire. Et puis bon, ça s'est enchaîné comme il vous a expliqué. Et là, j'ai cherché des mots qui, moi, me faisaient vibrer, me donnaient envie de dire. Et j'ai fait valider par Olivier, bien évidemment, pour ne pas faire de contresens par rapport à ce qu'il a écrit, par rapport à son intention. Et il y a eu très très peu de non-validation. Il y a eu très peu de non, c'est pas ce mot-là. Mais tous les mots qu'il m'a demandé de conserver par rapport à son texte originel, je les ai gardés. Je les ai gardés parce que je pense que l'essence même de ce qu'il dit doit être respectée.
Alors une idée me vient à l'instant. Si les événements me sont favorables, ils le seront certainement. Si, ça c'est mon idée en direct, hein, personne n'est au courant, on n'en a jamais parlé, mais comme j'ai parfois la possibilité de programmer quelques concerts à la librairie Publico, ce serait peut-être bien que vous veniez tous les deux dire les poèmes dans cette très belle acoustique, hein, il faut le dire, sans micro d'ailleurs. Un jour, une après-midi, ça peut être, on peut trouver ça, il faut jouer avec Ronan, avec Laurent, mais ce serait bien, c'est une salle intimiste et on pourrait faire quelque chose. C'est mon idée, donc dans les mois qui viennent, c'est une proposition. Alors, cher Olivier, il est 4h30, nous avons des invités, tu allais dire un poème, mais nous avons fini notre séquence. Hein. Je t'avais promis une deuxième venue, alors... on va peut-être prendre un abonnement avec Olivier Herrera. Il va revenir dans 3 mois. Il pourra dire les autres poèmes sans être impatient. Il n'y a aucun souci. Mais nous avons les poèmes avec Ariel Elsa. Nous avons Sophie. Nous avons Michel Tourte qui vient d'arriver également. Donc nous avons 30 minutes. Et le grand timonier m'a dit Laurent, attention, ça y est. Eh bien, on se dit à une prochaine fois de toute manière. On se dit au revoir, cher Olivier. Nous avons eu le bonheur d'écouter cette poésie. Et la prochaine fois, on va continuer avec cette même configuration, déjà sur le plan radiophonique. Alors Olivier, ça y est, la séquence est terminée.
Encore un peut-être
alors. Bon alors, à la demande générale de Sophie et d'Ariel et d'Elsa et de Michel qui lève la main, le vote est unanime, un dernier poème avec Olivier qui s'impatientait.
Bien, et ce poème, à l'origine, c'était Gorazde de Sarajevo. Ça a été écrit l'année 95 quand la Bosnie était massacrée. Et je l'ai repris après, quelques années après. Et aujourd'hui, c'est pour Gaza et c'est pour la Palestine. Si je n'explique pas ça, personne ne peut l'adiviner. Mais je dois dire qu'au début, c'était pour la Bosnie. Mais la Palestine est le plus nécessaire que jamais. Si tu quisieras, a todos los niños de Gaza y Palestina, de Israel y del mundo. Si tú quisieras, un gesto, una palabra tuya, y una venida de luz saldría de las entrañas del Monte de los Olivos, uniendo Gaza y Jerusalén. Si tú quisieras, un gesto, una palabra tuya, y volvería la esperanza, el agua a las casas, hospitales y escuelas de Gaza y de Jerusalén. Si tú quisieras, un gesto, una palabra tuya, y volverían a florecer los cerezos y los lirios en las calles y las plazas de Gaza y Jerusalén. Si tú quisieras, un gesto, una palabra tuya, y volverían a anidar los sueños en los altos minaretes, volverían a cantar los mirlos en Gaza y Jerusalén. Si tú quisieras, un gesto, una palabra tuya, y todos los niños de Israel y de Palestina tomarían partido por el amor y por la vida, si tú quisieras.
Si tú voulais, a tous les enfants de Gaza et de Palestine, d'Israël et du monde. Si tú voulais, un geste, un mot de toi, et une avenue de lumière sortirait des entrailles du Mont des Oliviers, unissant alors Gaza et Jérusalem. Si tu voulais, un geste, un mot de toi, et reviendrait l'espoir et l'eau dans les maisons, les hôpitaux et les écoles de Gaza et de Jérusalem. Si tu voulais, un mot, un geste, et refleurirait les cerisiers et les lys dans les rues et sur les places de Gaza et de Jérusalem. Si tu voulais, si tu voulais un geste, un mot de toi, les rêves referaient leur nid sur les hauts minarets, les merles siffleraient de nouveau dans Gaza et dans Jérusalem. Si tu voulais un geste, un mot de toi, et tous les enfants d'Israël et de Palestine prendraient parti pour l'amour et pour la vie. Si tu voulais.
Merci. Merci. Thank you.
كوب الشراب المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمام كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها.
L'art d'aimer, un texte de Mahmoud Darwish accompagné par le trio Joubran. Et maintenant, pour la suite de l'émission, je vais faire l'appel. Vous savez quoi ? Il m'arrive dans le cours de maths avec mes élèves d'utiliser une lettre qui n'est pas une lettre grecque ni une lettre latine, qui est la lettre Aleph, pour désigner le cardinal d'un ensemble, Aleph 0, Aleph 1, etc. Et je demande, est-ce qu'un élève peut venir au tableau m'aider à tracer un Aleph ? Parce que c'est la première lettre de l'alphabet hébreu qui est utilisée. Et en général, c'est un élève arabe qui vient au tableau et qui me trace la lettre Lif, parce que Aleph et Lif, c'est la même lettre. Radio Libertaire, 89,4 MHz, à la lettre A, Ariel, ou à la lettre...
Plutôt Sophie.
Alors, je vais raconter une petite histoire d'avant ça. Mon voisin, un jour, je sors et je discute avec mon voisin qui est assez âgé, qui me racontait que dans le temps, il habitait en Algérie et qui donnait des cours d'arabe. Ce monsieur était juif et il donnait des cours d'arabe pour remplacer le professeur qui était malade pour une durée assez indéterminée. Et ce monsieur, je ne me rappelle plus l'époque exactement malheureusement, mais a été renvoyé parce qu'il avait donné des cours d'arabe et qu'il était juif. Voilà, c'était une petite anecdote. Le thème que j'ai choisi, c'est le thème de nos mères. Je vais juste dire un texte ou deux aujourd'hui et puis je continuerai la semaine prochaine. Le premier texte est tiré d'un livre d'Hervé Bazin qui s'appelle « Vipère au poing » qui est sorti en 1948. Et donc ce livre, il est question de l'enfance de Jean Rezeau, dit « Brasse-Bouillon ». Lui et ses frères combattent littéralement leur mère, qui est une femme odieuse qu'ils surnomment Folcoche. Folcoche, c'est une contraction de « folle » et de « cochonne ». Donc ce roman est inspiré largement de la propre histoire d'Hervé Bazin. C'est un cri de haine envers cette mère maltraitante. Et donc le passage que je vais lire, c'est la fin, c'est une tirade adressée à Folcoche, pendant laquelle le narrateur compare sa mère au serpent qu'il a étranglé dans son poing quand il était enfant. Et cette scène m'avait été lue à haute voix à l'époque par ma mère et ça résonne encore. Après, j'ai choisi ce thème aussi parce que je crois qu'on est nombreux à avoir des rapports plus ou moins complexes avec nos mamans. Vous savez...
Je les connais bien, ces bêtes sinueuses dont fourmille le craonnet. Un serpent, m'a-t-on rabâché, siffla pour notre mère Ève. Une belle folle coche, celle-là. Une belle folle coche qui a empoisonné pour toujours toute l'humanité. Mais la vraie folle coche siffle mieux. Couleuvre d'eau par erreur, vous donnerez encore dans mes nasses, jaunes et tordues comme des rires captifs. Aspic de la tentation, vous pouvez grouiller, je vous préfère. Et vous, les anguilles de Lomé, et vous, les vers de terre sortis rosâtres sous la pelle de Barbelivien, comme les idées, dans les marais, dans la glaise de l'intelligence. Mais entre tous les reptiles, à moi la vipère, à moi. Te souviens-tu, folle coche, de celle à propos de qui tu disais avec l'air de si fort la regretter, cet enfant était l'objet d'une grande grâce. Cette vipère, ma vipère, dûment étranglée, mais partout renaissante, je la brandis encore et je la brandirai toujours, quel que soit le nom qu'il te plaise de lui donner, haine, politique du pire, désespoir au goût du malheur, cette vipère, ta vipère, je la brandis, je la secoue, je m'avance dans la vie avec ce trophée, effarouchant mon public, faisant le vide autour de moi. Merci ma mère, je suis que celui qui marche, une vipère au poing.
Ma mère, pourquoi ne m'as-tu jamais donné le câlin chaud, le gros baiser qui vient du fin fond des entrailles? Pourquoi d'un air paisible et doux n'as-tu pas demandé au loup, au croque-mitaine, qu'il s'en aille? Tu sais, je me retrouve aujourd'hui à 37 ans toutes les nuits, encore privé de tes caresses. J'ai pas demandé à voir le jour, c'est les parents qui font l'amour et les mères qui font les grossesses. Ma mère, tu ne m'as sûrement pas voulu, mais j'étais là fragile et nu, les bras tendus comme des branches. Un enfant a besoin de tout, de feuilles mortes et de toutou, et de tendresse et de dimanche. Ah, ces dimanches auprès de toi, à mon retour de l'internat, Dieu que la semaine était lente. Tu me sers tout contre toi, tu sais, ma mère, qu'on rit tous deux et qu'on chante. Ma mère, comme d'autres, tu avais tes problèmes. Ça doit pas empêcher qu'on s'aime, qu'on ait de l'amour à revendre. De l'amour, j'en avais des tonnes, bloquées au niveau du sternum, et puis les envies de me pendre. Tu sais, je me retrouve aujourd'hui devant les gens, devant la vie, recroquevillée dans ma peur. Et quand on se rencontre un instant, on parle de la pluie et du temps, avec entre nous la pudeur. Si j'ai fait cette petite chanson, c'est que ça ne tournait pas rond dans ma poitrine, c'est que je t'aime. Le prochain jour que l'on se voit, approche-toi plus près de moi, tu sais, je ne mords pas quand même. Il nous reste si peu de temps pour rattraper les heures d'antan, avant que la mort ne nous prenne. Pourquoi ne pas boire tous les deux là où boivent les gens heureux, ensemble à la même fontaine? Pourquoi ne pas boire tous les deux?
tous les deux, là où boivent les gens heureux, ensemble, à la même fontaine.
Eh oui, mais attention, on n'a plus qu'un quart d'heure, donc il faut que je me départisse de cette habitude d'envoyer une chanson après chaque texte, puisque, ben tiens, ma mère d'Henri Tachon, d'accord, mais j'ai en face un père, une fille, avec des textes.
Ce sera la fille, et le père y terminera.
Alors, Daniel Gélin, excusez-moi, Daniel Gélin a sélectionné un extrait d'un texte de André Salmon, Le Pervers. Je vis de ma folie et meurs de ma raison, et dédaignant chanter de pure épithalame, je sais, pour excuser toutes les trahisons, des mensonges jolis qui séduisent les femmes. Parfois, quand un soleil héroïque se taille un royaume éclatant dans l'azur délivré, je suis le sang gonflant, mon vieux cœur ulcéré, comme un enfant qu'énivre un récit de bataille. Cependant, par-delà le royal horizon, je vois marcher sur moi le peuple des nuages, et, les sens épuisés de heurts et de frissons, je n'ai plus qu'un espoir et j'implore l'orage. Je suis le chevalier servant de l'infortune, je suis le chasseur d'ombre, et mes chiens rubanés, effarés des rayons glauques du clair de lune, ont des abois qui font gémir les nouveau-nés. Je suis le baladin qui danse sur la corde, heureux de son vertige et de ses oripeaux, et je suis quelquefois l'innocent au berceau que le rêve exaspère et que la peur déborde. Je suis un frêle abbé, confesseur de boudoir, qui caresse la mort sous son domino noir, et qui, devant l'amour vivant de Bohème, pleurerait s'il n'était observé par lui-même. Et je suis de ceux-là qu'on trouve un soir d'hiver, quand le vent fait sombrer le clair espoir des voiles le blême, la corde au col et les yeux grands ouverts, ivres de la clarté magique des étoiles. Donc, extrait vient du recueil « Les clés ardentes », édition Gallimard.
Pour Bobby la pointe. La maman dit poisson, elle est bien gentille. Hein, Bobby, perché sur les toits de Paris quand tu plantais les petits arbres du progrès. Télé, ma devise. Faut que je m'achète deux, trois chemises. Miss, mise sur un tas de piques. Tu combines, tu joues, tu passes. La mort a des relents d'alcool. Bobby, sois cool. C'est ce qu'ils t'ont dit. C'est pas né à Liverpool, mais à Paris. Enfin, pour moi, peut-être que c'était Carpentras. Et peu importe, t'avais beau donner de la glotte, c'est toujours au petit pas. Et allez, qui vivra, verra. On a vu, t'es mort dans la terre, et d'un coup, ça marche sévère sur France Inter. Minet. Les violons, fous de ce monde, chantent à l'écarlate perdue. Les nasillons micro-sillonnent aux fragiles portées des ondes et le speaker publicité harangue les alligators. Attends, Michel.
Oui, alors Pierre de Jade écrit toujours des textes amusants, on va dire. Bien ou bien, ça s'appelle celui-là. Le bien et le mal, deux notions antinomiques et universelles qui agitent l'humanité depuis que nos lointains ancêtres, les Australopithèques, ont très tôt découvert que manger des baies leur faisait du bien. C'est pas mauvais ce truc-là, c'est quoi, en langage grognant d'époque. Et que se cogner le petit orteil contre un tibia de mammouth en se relevant la nuit dans l'obscurité d'une grotte pour aller pisser était beaucoup moins agréable. Qui c'est le blaireau qui a pas rangé ses affaires? Ouh là là, c'est beaucoup moins bon que les petites boules noires, ça. En langage ancien également. Mais vous aviez reconnu, la prise de conscience de la complexité de ces émotions est apparue à la même époque. lorsque des membres d'une tribu notèrent que l'abus de consommation de baies pouvait leur faire plus de mal que de bien. Cet effet laxatif constaté serait à l'origine de l'entrée bien plus tard de ces concepts de bien et de mal dans la conversation courante. Très vite, la notion de moralité est venue se greffer sur les deux autres, en associant la récompense au bien et la punition au mal. Notons au passage que les religieux de tout poil ne se sont pas fait prier pour exploiter le filon. Mais faire le bien n'est pas si simple, encore faut-il bien le faire. Mal faire le bien oblige à faire mieux, et quand on sait que le mieux est l'ennemi du bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Pour couronner le tout, certains ont compliqué le problème en usant d'affirmations péremptoires telles que « ça fait mal, mais c'est pour ton bien ». C'est bien fait pour toi si tu as mal, ou pire, c'est un mal pour un bien. Le bien, le mal, en fin de compte, c'est très subjectif. Malgré cela, objectivement, si on arrêtait de se faire du mal, ce serait bien.
De la mémoire, mes aïeux. Les os de ces soldats s'amusent aux jointures et font un puzzle à réinventer l'homme abstrait. C'est le jeu d'osselet avec la pourriture que font les gens de guerre, accroupis sous l'engrais. Homme de tes vertus, je gueule l'imposture. Je suis terre, il est vrai, mais à dies irac, je préfère un chant noble et que nulle souillure ne vienne l'enrayer, fût-ce un drapeau sacré. La guerre, c'est l'azur trempé dans la lessive. C'est le dieu de chacun qui nous montre du doigt. C'est un paix. C'est un tic. C'est une alternative. Mourir, or note mourir. On est trop à l'étroit. La guerre, c'est le chant d'amour d'une planète qui fiente dans mes flancs des bijoux de 20 ans. La guerre, oh putain, sale inconnu des poètes, et qui me fait de l'épopée et des sergents. La guerre, mon petit, c'est comme l'aspirine. Ça fait passer le mal d'aimer, le doux prochain, ce prochain de Jésus qui se creuse l'échine à promener la Marseillaise.
Dans 6 minutes sur l'antenne de Radio Libertaire, ça sera Bulle Noire spéciale zombie, mais là, il nous reste des textes.
Voilà un poème de Papy Jean. Je l'ai intitulé son titre numéro 31. J'ai vu 1000 femmes, elles avaient 1000 culs ce jour. J'ai vu 1000 amantes, elles avaient 1000 fantaisies ce jour. Je me suis vue seule ce jour à désirer ces 1000 culs et leurs 1000 fantaisies. Papy l'a écrit à Paris en mars 1953.
Mon enfant blond dort dans ma tête. Mon enfant blond, hypothétique, je le sens bouger des antennes. Mon enfant blond, quand il respire, le sang dans mes tempes se fige. Mon enfant, aux yeux d'outre-mer, appelle la vie véritable. Mon enfant, communiste, ne veut pas, ne peut plus attendre. Il se suicide dans mon crâne. Et Jésus-Christ dit à l'aveugle, « Par le Dieu Tout-Puissant, je te donne la vue. » Et quand il vit, l'aveugle se creva les yeux. Et l'aveugle dit à Jésus, « Par le diable Vauvert, toi, tu n'y verras plus. » Et dans le noir, Jésus criait au scandale.
Un texte du Vietnam. Le mot caillou, histoire de mots. Enfant, j'aurais voulu que les mots me parlent comme des végétaux, comme une fleur touchée. J'étais seule avec les mots, comme en train de regarder une pierre. Parce que je trouvais extraordinaire que l'existence de quelque chose puisse surgir d'un mot, comme lorsque j'arrivais à déchiffrer le mot écureuil. À mon niveau, il s'agissait d'une aventure aussi exaltante que celle de poser un pied sur la lune. Plus tard, j'ai compris que les hommes, avec leur langage, n'entendaient pas exprimer les balbutiements de l'âme. Les mots devenus outils n'avaient plus cette fonction végétale, enamourée, prodigieuse, celle de se confondre avec une émotion, l'observation d'un nuage. Pourtant, quelque chose doit continuer à surgir à travers tout le fatras de mots que nous utilisons. S'agit-il de cette étincelle qui se produit lors du frottement d'un mot contre un autre ? L'étincelle dévoyée ne me dit plus rien. Elle me sourit. Par l'entremise de la voix d'un inconnu absent, elle vient pour fendre l'air de mon intimité. Elle répond pourtant à mon appel, puisqu'elle ne vient que lorsque je la sollicite. Elle est gracieuse, palpitante, légère. Elle se pose comme une libellule sans effort. Elle est passée par la fenêtre. Cette voix qui a appartenu à un homme voyage libre, et j'y crois. Et puis le poème est revenu comme un pays qui se déplace. Il s'est offert à plein de personnes inconnues dans la rue pour parler chacune de leur langue. Il les a illuminées comme un rayon de soleil. C'était un poème solitaire qui bouscule tout sur son passage, en éclatant de rire parfois. Je prends les mots dans sa cascade, comme les plus beaux cailloux du monde. Je le croise parfois dans la rue, sans le reconnaître, et nous échangeons nos incognitos. Quel bonheur, passé, présent, il s'en fout.
T'as bien capté, bulle-moi sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar du Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs du Libertaire.
T'as bien capté, bulle noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de Paula, sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4h.
Baby,
ton Faut pas tromper les flingues, vont sortir des holsters.
Bien capté, bulle noire, sur Libertaire,
Radio Libertaire.
On va parler de polar, sur Libertaire,
Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Liberté,
Radio Liberté,
Radio Liberté,
Radio Liberté,
Radio Liberté,
Radio Liberté.
Radio Libertaire sur 89.4.
Le zombie n'a donné lieu qu'à un petit nombre d'illustrations littéraires intéressantes, dont Le zombie de Francis de Miomandre en 1935. Mais il a fait la percée au cinéma avec White Zombie de Victor Alperin en 1932. Ce n'est pas par hasard que les films de zombies ont été nombreux aux États-Unis pendant la guerre. La condition du soldat en campagne n'est pas sans rapport avec celle de l'esclave dans sa plantation. Tous ces morts-vivants ont un certain nombre de points communs. Ils ressemblent aux vivants, même s'ils en diffèrent subtilement. Ils provoquent un mélange complexe d'horreur et d'attirance. On peut entrer en relation avec eux. Il y a toujours quelque chose à négocier, même si l'issue est fatale. Mais il y a dans le peuple des morts, une classe très particulière, qui nous inspire une horreur bien plus radicale et nous fait redescendre tout au fond de nous-mêmes. Ce sont les parties séparées du corps. Dans les premiers mois de notre vie, nous ne savions pas que nos parents existaient. Nous voyions des seins, des mains, des yeux, des bouches, et nous attendions de ces objets tout le bonheur et tout le malheur du monde. Ce vieux savoir continue à hanter notre inconscient et dans les moments de crise grave, où nous régressons à un état très infantile, nous les retrouvons intacts et immuables. Et ces objets redevenus autonomes, animés d'une volonté propre, sont ressentis comme des agresseurs. Les yeux espionnent, les mâchoires mordent, les mains étranglent. Certes, les récits fantastiques, lorsqu'ils abordent ce thème passablement terrifiant, font sortir du tombeau les parties du corps qu'ils évoquent, mais celles-ci, une fois libres, se conduisent littéralement comme des bêtes malfaisantes. Le thème du mort-vivant est croisé ici avec celui du monstre.
Bonjour à tous, un bulle noir spécial zombie. Est-ce que ça sera en zombie-rama cette émission? Je ne sais pas trop. En tout cas, deux invités dans les studios de la radio. D'une part, Olivier Bruno qui vient de publier aux éditions Rivage et Virage Graphique la bande dessinée Robbie avec sa camarade Emily Gleason. Je ne sais pas si c'est ta camarade d'ailleurs.
Elle est
dessinatrice, mais alors elle ne peut pas venir parce qu'elle est au Mexique.